jardins qui sentaient bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la Chaussée-Dantin. Mais un jour, près du jardin,
tranche de vie, petit voyage à travers nos existences.
Portait une fleur de béton, dans le jardin une voix chanta. De grâce, monsieur le promoteur. De grâce, réservez cette grâce. De grâce, monsieur.
Auditeur de Tranche de Vie, aujourd'hui, je suis à Périgueux, dans ce qui est à la fois un atelier et un magasin, celui de Régine, tapissière décoratrice, qui va nous parler de son métier et qui nous accueille avec le sourire. Régine, bonjour, merci de parler à nos auditeurs de votre métier si particulier et merci de nous expliquer d'abord comment on devient tapissière décoratrice.
Bonjour. Alors, pour être tapissière décoratrice, dans nos métiers, il y a deux options, garniture et couture. Moi, je suis principalement donc tapissière décoratrice option couture. Donc, je fais tout ce qui est rideaux, coussins de canapé, préparation de tenture murale, dessus de lit, peut-être d'autres choses, tort bateau, tort américain, pente japonaise, enfin voilà.
Pente japonaise, alors ouais. Là on entre là, dans le vocabulaire spécialisé d'emblée. Qu'est-ce que c'est qu'une pente japonaise?
Oh, tout bêtement, c'est un morceau de tissu qui est tendu avec une barre de lestage en bas de manière à ce qu'il soit bien, bien raide, bien tendu sur les vitres.
Comment est-ce que vous êtes devenue tapissière décoratrice? Est-ce que c'est par vocation, vous avez eu envie de faire ce métier, ou bien est-ce que c'est parce que les hasards de la vie vous ont conduit vers cette orientation-là?
Ah non, depuis toujours j'ai voulu être tapissière décoratrice. J'aimais le dessin, l'architecture, je dirais le papier peint, le tissu, et d'emblée ça m'a tout de suite été, je dirais, une évidence de choisir ce métier-là.
Les études pour de faire ce métier, quelles sont-elles? Est-ce que vous avez eu une formation technique de plusieurs années? Vous avez des formations au dessin ou au graphisme?
Ouais, donc j'ai fait bien sûr du dessin industriel, j'ai fait un CAP couture, après j'ai fait une année complémentaire pour la garniture et ce qu'on appelle les chantiers Villiers, donc les poses de tringles, la tenture murale, et j'ai fini par un bac pro. À l'époque, en 91, il n'y avait que deux villes qui proposaient le bac pro, une à Saint-Quentin dans l'Aisne et une à Rion du côté de Clermont-Ferrand. On a été les premiers à passer ce genre de diplôme.
Alors, vous avez parlé de garniture et tout à l'heure, lorsqu'on a fait connaissance, vous me disiez que l'option garniture, c'est-à-dire la garniture des sièges, en fait, c'était quelque chose qui était presque exclusivement masculin pour des raisons que vous allez nous expliquer.
Oui, la garniture est, je dirais, un métier quand même physique, même si maintenant on va me prouver qu'éventuellement il y a des techniques pour moins forcer, mais c'est quand même très physique. Et étonnamment, à l'heure actuelle, dans les écoles, je dirais, il y a eu un changement de mentalité, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Mais j'ai peur que ce soit que momentané.
Donc les filles se mettent quand même à la garniture.
Ouais.
Mais vous avez été formée aussi à cette technique,
ouais.
Une technique relative à la garniture.
Oui, tout à fait.
Mais donc vous êtes orientée plutôt vers les tentures, les rideaux, les pompes japonaises.
Oui, puis je dirais peut-être que les mentalités ont changé, mais moi quand j'ai commencé à travailler, j'avais des patrons, j'étais pas la seule dans ce cas-là, mais quand j'étais plus jeune, je trouvais qu'ils avaient un côté macho parce qu'ils ne voulaient pas que les filles fassent du siège. Mais avec le temps passé maintenant, je comprends. C'est, voilà, pour les raisons que je disais, c'est physique.
Pas de regret quand même de ne pas pouvoir...
Non, du tout.
Non. Alors,
Pardon de vous couper, mais je dirais, pour bien faire notre métier, il faudrait presque binôme, qu'une fille travaille avec un homme.
Ah, d'accord.
Déjà, ne serait-ce que pour choisir les tissus, parce que forcément, les goûts féminins et masculins ne sont pas tout à fait les mêmes, même si des fois ça arrive, mais comme ça se complète.
Oui, puis on imagine que quand des gens veulent faire un ensemble avec des sièges et puis des tentures, les choses soient harmonisées.
Des fois, il y a des fauteuils qui ont des coussins. Donc, des fois, un tapissier, tout le monde ne sait pas faire ses coussins.
Oui.
Donc des fois, voilà, un tapissier avec une tapissière, et puis ne serait-ce que quand il y a justement... Imaginons qu'un canapé soit fini. Un tapissier tout seul ne peut pas emmener son canapé tout seul. Voilà, en étant binôme...
Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit prêt à faire les coussins.
Je trouve que ce serait le meilleur compromis, voilà, dans notre métier.
Très bien. Bon, le message est passé.
Une vue personnelle.
Maintenant, je vais vous demander un petit peu quels sont les matériaux que vous travaillez, parce que... Quand on dit je vais faire appel à une décoratrice, on pense tout de suite à des tissus riches avec des graphismes quand même un peu artistiques. Comment est-ce que vous vous approvisionnez et quel est le type de client auquel vous avez affaire?
Alors là, je vais pas vous cacher, c'est vrai que notre clientèle, je dirais, fait partie des gens quand même aisés. Moi, je dirais que j'ai commencé ma carrière, c'est pas péjoratif, on va dire entre guillemets des Français moyens, c'est-à-dire des gens qui avaient un but bien précis, une idée voilà de leur décoration et ils mettaient de l'argent de côté dans ces perspectives-là. Eh bien maintenant, ce Français moyen, on ne voit plus du tout. Pareil, depuis plusieurs années, on nous demande des prix très bas, mais les prix très bas en décoration, c'est compliqué. Ou alors ce sera vraiment une petite toile coton tout à fait unie. Mais tout de suite, dès qu'on veut un tissu un petit peu graphique, brodé, où il y a des dizaines de coloris, du dessin, là, ça peut aller très très loin.
Est-ce qu'il y a des matériaux que vous préférez, des matériaux à la mode, et est-ce qu'il y a des matériaux que vous préférez travailler par rapport à d'autres matériaux?
Non, moi je me... On va dire par exemple lins, ou enfin toutes les matières naturelles sont déjà très faciles à travailler. Des tissus style des maisons braconniers, frais, canovas, qui sont des maisons qui ont peut-être 150 ou 200 ans... de notoriété. Là, c'est des produits de haute, haute qualité. Et là, c'est un délice de les travailler. Mais ils coûtent tellement cher que j'en travaille très peu.
C'est très beau tissu, fabriqué par des maisons anciennes, qui ont un savoir-faire déjà très long. Où est-ce que vous les trouvez? Comment est-ce que vous vous approvisionnez?
Bon, déjà, toutes ces maisons, elles ont toutes des showrooms sur Paris. Après, la fabrication des tissus, on va dire la moitié se fait en Europe ou l'autre moitié, bien, très, très loin. Mais il n'y a plus, malheureusement, de maisons françaises.
Ah bon?
Non.
Donc, les maisons que vous évoquiez tout à l'heure sont des maisons, sont des créateurs étrangers
À la base, c'était français, mais avec le temps, ils sont partis à l'étranger.
Et alors, il y a un remplacement maintenant des produits européens, on va dire, par des produits qui sont élaborés ailleurs, comme dans le cas des vêtements, par exemple.
Comme je vous disais, il y en a beaucoup. Pourtant, c'est une maison française, Canovas, mais c'est fabriqué en Angleterre. Après, il y en a quelques-unes en Italie. J'ai, pareil, des maisons belges. Mais je vous dis, maisons françaises, elles ont été démantelées. Surtout, en général, elles étaient implantées, bien sûr, dans le Nord. Mais non, il n'y a plus.
Mais quand vous parlez d'Italie ou de Belgique ou d'Angleterre, est-ce que ça résulte du fait qu'il y a eu une tradition d'utilisation de beaux tissus dans la décoration, si on pense à la Belgique, à l'Angleterre...
L'Italie, c'est un peu comme nous, la France, quoi, depuis la Renaissance. C'est les deux pays, je dirais, qui... Excusez-moi le terme, qui se tiennent la bourre, quoi, au niveau décoration, voilà. On est à peu près...
L'Angleterre, c'est un pays, on est bien connu, que les gens portent un soin particulier à leur intérieur,
Ils aiment le côté très cosy.
Très
cosy, très fleuri, oui.
Et ça, est-ce que vous sentez que dans notre pays, c'est quelque chose qui disparaît, ce goût, ou bien qui, comme vous le disiez tout à l'heure, n'est plus que l'apanage d'une élite qui a les moyens de se permettre de recourir à des professionnels comme vous?
J'aimerais croire que les choses vont changer, mais maintenant, je vais être un petit peu pessimiste, c'est que dans les nouvelles générations, j'ai l'impression qu'ils n'aiment plus les belles choses. Si malheureusement ils héritent de canapés ou de sièges de leur famille, ils vont préférer les mettre à la déchetterie et eux s'acheter du Ikea. Alors je ne sais pas si c'est par un manque d'éducation, de leur dire tiens ça c'est beau, ou justement à cause des finances.
Ça leur coûterait trop cher de les faire restaurer.
Malheureusement, je ne parle pas pour ma paroisse, mais souvent, la rénovation coûte plus cher que du neuf. Mais bon, de la rénovation, après, le fauteuil est reparti pour 40 ou 50 ans. Et ce n'est pas parce qu'on a un vieux siège qu'on se dit « Oh là là, ce style-là ne me plaît pas du tout », mais on peut lui mettre une laque de couleur très vive avec un tissu très moderne. On peut vraiment en faire quelque chose de très actuel.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des sièges qui ont des formes, des styles qui sont intemporels, voilà. Et qu'on peut adapter au présent.
Ouais. Par exemple, une petite chaise Louis XV, c'est un petit siège, il prend pas beaucoup de place. Il peut être facilement, mis dans un appartement. Et maintenant, sachant que les appartements sont de plus en plus petits, c'est des sièges qui sont pas encombrants.
Votre clientèle, comment ça se passe? Ils viennent vous voir et puis vous allez, avec vos clients, définir en fonction de leurs attentes, vous allez les conseiller sur la couleur, sur le matériau.
Alors, quand les clients viennent au magasin, il y a ceux qui viennent avec une idée préconçue et ceux qui viennent comme ça, pas au hasard, mais qui ne savent absolument pas. Et je dirais que quelque part, c'est plus facile d'aiguiller quelqu'un qui ne sait pas, parce qu'en discutant, on peut savoir s'il veut un tissu uni, un motif, comment c'est chez eux. Alors que quelqu'un qui vient avec une idée préconçue, des fois, je leur dis « Mais ce que vous avez imaginé n'existe pas encore chez les éditeurs de tissus. » Alors, des fois, c'est...
Il vous arrive que des gens vous proposent des choses qu'ils ont déjà imaginées, qui sont des accords, par exemple, de tissus qui ne sont pas du tout recevables ou pas du tout... de donner des résultats...
Des fois, ça m'est arrivé de dire que l'harmonie au niveau couleur... Excusez-moi. Oui, madame. Oui, bien, et vous? Ok. Quelle heure puis-je venir chez vous vers 18h? Est-ce que ça va?
Ouais.
Ok, bon, on dit ça à 18h. Merci, au revoir. Excusez-moi, ça, c'était pas prévu.
C'est très bien. Vous allez aller chez cette dame pour voir sur place un petit peu quel est le problème.
Oui, en fait, c'est une maison dont les murs ne sont bien sûr pas perpendiculaires. Et donc, il faut être très précise dans les cotes à prendre.
D'accord. Alors là, on en vient aux contraintes techniques de votre métier. Quelles sont-elles? Évidemment, il y a les mesures, mais est-ce que c'est vous qui mettez en place les tringles, les choses comme ça?
Non, là, je reconnais que je fais appel à quelqu'un. Oui. Parce que toujours, j'en reviens au problème. En soi, poser une tringle, je dirais, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on a bien préparé, mis ses repères, tout ça. Mais bon, quand vous avez une tringle, qu'il faut la mettre à 3 mètres de haut, toute seule, c'est un peu compliqué. Parce qu'après, tout à fait.
D'accord. Mais autrement, alors, quels sont les problèmes que vous pouvez rencontrer dans la fabrication aussi est-ce qu'il y a des techniques qui sont des techniques de la garniture les bordures, par exemple, qui sont applicables
À chaque fauteuil, une garniture bien spécifique. Donc déjà, il faut bien apprendre ces styles. Alors, si j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, maintenant, s'il y a de plus en plus de filles qui font de la garniture, elles sont aussi de plus en plus orientées vers de la garniture mousse.
Ah oui. Alors, oui. Le crin, c'est fini?
Ça paraît à disparaître.
Il y avait une chose que je voulais vous demander aussi au sujet du crin. C'est du crin animal. Comment on s'approvisionne en crin?
Nos fournisseurs, tous les tapissiers connaissent, il y a Oulès. La maison Oulès, c'est, je dirais, pas notre Bible, mais là-bas, depuis, je dirais pas le 17e, mais tous les tapissiers vont là-bas.
Alors, pardonnez ma curiosité, mais alors, ces gens-là, ils ont des contrats avec des éleveurs de chevaux. Comment ils
Je ne saurais vous dire. Quand moi, j'ai besoin de fourniture, je les appelle, et mais derrière, je ne sais pas comment ça se passe.
Pour garnir un fauteuil, il doit falloir quand même une certaine masse de
crin. Et c'est vrai qu'on a besoin de crin végétal et animal.
Ah, il y a le crin végétal aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que le crin végétal?
Comment vous dire
C'est du chanvre ou c'est...
Oui, c'est ça. Et j'irais, moi, personnellement, j'aime beaucoup parce qu'à le travailler, ça dégage une odeur de foin, ça rappelle les foins. Bah, bien sûr, c'est naturel, donc ça ne peut que rappeler ce genre de choses. Mais bon, là, j'en ai même pas à vous montrer à faire.
Oui, en tout cas, il n'y a pas, apparemment, d'après ce que vous dites, il n'y a pas de problème d'approvisionnement en crin animal. Suffisamment de queue et de crinière. Quoi.
Bon, j'appelle mon fournisseur, mais je ne pourrais même pas vous dire si c'est du crin européen, français ou étranger. Je ne saurais vous dire, là.
Alors, les tentures que vous posez, vous avez quelquefois des commandes, mais de très grandes dimensions. En fait, il vous arrive de faire des choses très importantes.
Oui, parce que, je dirais, en général, je fais des rideaux entre 2,80 m et 3,50 m.
Ah oui, pour des grandes maisons.
Ben oui, parce que sinon, les clients qui ont des appartements 2,40 m, soit ils viennent me voir parce qu'ils veulent un tissu bien spécifique, sinon, malheureusement, les autres, ben, ils vont aller dans des magasins de bricots et trouver des rideaux à 10 €. Si c'est une hauteur tout à fait classique.
Tout fait avec la hauteur classique. Oui.
Classique. Sinon, après, voilà, c'est des gens qui veulent vraiment mettre chez eux une touche particulière et pas avoir la décoration du voisin. Mais je crois que tout à l'heure, on a été interrompu quand on parlait des clients.
Oui, on parlait des clients. Et alors, on avait commencé à vous demander si, quelquefois, avec vos clients, ça se passait toujours bien. Enfin, j'espère que ça se passe toujours bien, mais est-ce que, quelquefois, il y en a qui ont des exigences qui vous choquent, ou bien vous êtes obligé de déployer des trésors de diplomatie pour leur expliquer que non, ça ira pas?
Oui, ça m'est arrivé. Alors, bien sûr, c'est eux qui ont le dernier mot. Mais des fois, quand c'est vraiment pas beau, je me permets de leur dire qu'on ne peut pas faire ça. Ou des fois, les gens ont peur de se tromper. Donc, ils veulent rester dans des tons très, très neutres. Et je leur dis que justement, en mettant une touche de couleur, ça va rehausser ce neutre, ce ton de pierre ou de lin ou gris. Des fois, il faut oser mettre une petite touche de couleur.
Alors, c'est là qu'intervient justement, que peut intervenir la complémentarité entre les sièges et puis les tentures,
voilà,
ou les rideaux.
Voilà.
Et on revient à votre suggestion initiale, le travail en binôme.
Tout à fait.
Est-ce que votre travail vous apporte des satisfactions, les satisfactions que vous en attendiez?
Ah oui. Je dirais, ce que j'adore le plus, c'est de voir mon travail donc mis en place chez la cliente. Là, je ne vais pas dire que c'est la récompense suprême, mais je crois que ça fait autant plaisir à la cliente qu'à moi.
Parce que c'est... Quand même, quand quelqu'un fait appel à vous, étant donné tout ce que vous avez, les réserves que vous avez formulées sur le fait que ça ne pouvait intéresser par définition qu'une clientèle ayant les moyens, c'est quand même un engagement, hein, faire refaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des tentures, faire appel à vous tous les 4 matins. Et donc, c'est pour plusieurs années.
C'est pour ça, des fois, quand les clientes sont indécises ou... Bien sûr, qui a un temps de réflexion, je leur dis surtout, prenez le temps, parce que je sais le budget que c'est, et donc je leur dis, prenez le temps de la réflexion. C'est le genre de choses, chez nous, il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas avoir le coup de cœur comme ça. Non, non, parce que, voilà, comme vous dites, la décoration, on en a pour 15, 20 ans, donc il faut être sûr de soi.
Mais alors là, on a parlé uniquement de clientes, là, par un biais regrettable. Est-ce que vous avez des clients, des messieurs qui viennent en vous disant, voilà, moi, je veux faire agencer mon appartement, changer les rideaux?
Ah oui, oui, oui. Oui, ça nous arrive de refaire.
Avec des goûts arrêtés aussi
Oui, je vous dis, j'en ai qui sont très sur deux. Donc là, je dirais, c'est facile. Et puis d'autres, voilà, faut...
Est-ce que vous pourriez maintenant évoquer un petit peu votre vie hors de la tapisserie? Parce que vous y consacrez, vous êtes dans la catégorie des artisans, n'est-ce pas?
Oui,
artisans,
oui.
Vous considérez comme un artisan d'art?
Ah oui, tout à fait.
Vous avez, à cette fin, il vous arrive de participer à des manifestations des artisans d'art à Périgueux.
Oui.
Est-ce que pour vous, vous jugez que votre vie professionnelle est difficile ? Je veux dire, matériellement, est-ce que vous avez à chercher des clients ou bien est-ce qu'au contraire, tout va bien ?
Je ne dirais pas que tout va bien, je ne dirais pas que tout est difficile. Disons que tous les jours, il faut se battre, il faut essayer de trouver des clients, voilà.
Et est-ce que comme beaucoup d'artisans dans d'autres secteurs d'activité, vous plaignez des formalités administratives,
ah, ça
de la réglementation, de la comptabilité?
Alors ça c'est sûr, le côté administratif c'est rédhibitoire, c'est fastidieux.
Profitez pour faire passer ce message aussi.
Non, mais ça c'est sûr.
Pour dire que vous n'êtes pas épargné, même en étant un artisan d'art.
Du tout, c'est côté... Je dirais que c'est peut-être ça qui fait que les jeunes gens n'ont pas envie de se lancer dans l'artisanat.
Ouais. C'est le côté déplaisant d'une entreprise comme la vôtre.
Ah ouais.
Alors, avec cette réserve-là, et comme vous venez de nous le dire, vous êtes satisfaite par votre métier. Est-ce qu'en dehors de la tapisserie, il y a une vie ? Est-ce que vous avez d'autres satisfactions ou d'autres passions dans la vie que la tapisserie ?
Alors, même si la tapisserie, ça fait partie de mon ADN, je dirais, c'est ma vie, je ne peux pas faire autre chose que ça. Mais alors, mon autre plus grande passion, pareil, là, je dirais, c'est inscrit en moi, sur moi, c'est que je suis mécène à l'association du château de Versailles. J'y étais là-bas parce que j'aime l'histoire de sa construction, j'aime les personnages qui y ont vécu, j'aime les jardins. Pour moi, ça a été l'apothéose du XVIIe et XVIIIe siècle. Là-bas, il n'y a que des belles choses.
Dans le domaine des arts et en particulier dans le domaine de la décoration intérieure. Mais extérieur aussi, puisque vous avez évoqué les arbres. Et alors, de quoi avez-vous été mécène ? À quelle restauration avez-vous contribué matériellement ?
Alors, à mon humble niveau, déjà, ça a été... C'est-à-dire, je vais reprendre depuis le début. Au début de ma carrière, j'étais en région parisienne à 15 km de Versailles. Donc déjà, j'y allais 3 à 4 fois par semaine. Je passais mon temps là-bas. Et quand j'ai vu le lendemain de la tempête de 99 où le parc a perdu le tiers de sa végétation, là, ça a été un coup terrible pour moi. Et de ce jour-là, j'ai donc donné des dons pour aider à replanter le parc. Et puis après ça, j'ai fait des dons pour restaurer des bancs, des fontaines, des statues qui sont le long de ce qu'on appelle le tapis vert. Enfin, souvent, quand je dis « je vais chez moi », ce n'est pas chez moi, chez mes parents ou ma famille. Quand je dis « je vais chez moi », c'est que je vais au château de Versailles.
Vous êtes propriétaire d'un certain nombre d'arbres du parc du château de Versailles. Mais est-ce que vous estimez que cette fréquentation qui tenait à votre résidence de jeunesse, fréquentation régulière ou fréquente du château de Versailles, a contribué à vous donner le goût du beau, le goût des agencements intérieurs recherchés et à un petit peu orienter votre vie professionnelle, vos choix professionnels ?
Non, parce que j'étais déjà tapissière. D'accord. Non, ce n'était, je dirais, pas un complément, mais...
Ça l'a confirmé quand même.
Ouais.
Donc, et à l'intérieur, vous avez participé aussi à des restaurations, matériellement, financièrement ?
Attendez que je ne dise pas de bêtises. La bibliothèque de Marie-Antoinette, puis une autre pièce, je crois que c'est la chambre de la Pompadour, mais voilà.
D'accord, donc là aussi, vous êes propriétaire en partie de
l'intérieur. Je dirais entre guillemets, c'est mon côté, je dirais un peu humoristique, je dirais je suis propriétaire
usufruitière.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et en plus, en étant mécène, j'ai une carte qui fait que quand je suis là-bas, toutes mes portes me sont ouvertes. Ah, je n'ai pas, enfin bien sûr, j'ai payé par mon mécénat, mais quand je suis là-bas,
vous bénéficiez d'un traitement de faveur.
Voilà.
Mais ça, c'est quelque chose, comme on disait tout à l'heure, qui se généralise. Il y a aussi des mécénats pour la restauration de certaines œuvres au Louvre.
Tout à fait. Le Louvre, Chantilly, Fontainebleau, enfin, je parle des grands châteaux, mais maintenant, quasiment tous les musées, voilà, n'ayant plus de subventions de l'État, eh bien, demandent de plus en plus aux particuliers de les aider.
C'est bien.
Bah, je vais vous dire, quitte à payer des impôts, je dirais autant essayer de se faire plaisir en même temps.
Exactement, exactement. Surtout si, comme vous le dites, ensuite, on effectivement, quand on participe à la restauration de certaines œuvres du Louvre, eh bien, on a des entrées gratuites ou des choses comme
oui,
ça.
Oui, puis c'est défiscalisé, donc on y gagne un petit peu au niveau imposition.
Bien sûr.
Voilà.
Il faut quand même qu'il y ait une petite contrepartie.
Ah hein. Bah, oui, quand même.
D'autres passions ? D'autres passe-temps, parce que quand même, là, vous travaillez combien? Alors, vous travaillez combien d'heures par semaine là, quand il vous arrive d'avoir des coups de feu, des choses à terminer rapidement
Alors, minimum, c'est 12 heures par jour. Sinon, j'ai fait entre 14 et 15. Mais il ne faut pas le faire trop longtemps, parce que sinon, on est vite épuisé. Parce que j'ai travaillé pour des grands endroits... par exemple, j'ai travaillé pour la Fondation de Laurière, je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, ça a été... Voilà. Et puis, d'autres choses importantes. Et souvent, quand on travaille avec des architectes, ce qu'ils oublient, c'est qu'avant nous, il y a d'autres corps de métier. Et qu'en général, les autres corps de métier prennent du retard. Et comme on est les derniers à intervenir... et qu'il y a un délai à respecter, là, d'accord. Tout d'un coup, il faut que le tapissier, là...
D'accord, parce que vous êtes la dernière... Oui, je comprends, parce qu'il faut que les murs soient
voilà,
propres,
parce qu'avant nous, il faut qu'il y ait le plombier, l'électricien, le peintre... Hein.
Ouais. Mais vous, ça vous amène à participer à des travaux comme ça, ça vous amène à côtoyer, à travailler avec d'autres artisans d'art.
Ah oui, tout à fait.
Et là, il y a eu plusieurs salons déjà à Périgueux. Il y a quand même une certaine cohésion dans le groupe des artisans d'art de Périgueux.
Oui, oui. Je dirais, je vais pas dire qu'on se connaît tous, mais la plupart. Et puis voilà, dès qu'on a besoin des uns et des autres, on s'appelle. Oui, oui. Je dirais, je vais pas dire qu'il y a une grande connivence, mais on va dire entraide. Voilà le mot que je cherchais. D'accord, entraide.
C'est bien. Alors, bon, on retient quand même que vous avez un travail fatigant, astreignant.
Comme tout artisan, si on veut gagner sa vie, ben, il ne faut pas se ménager.
Et vous travaillez essentiellement debout, alors?
Ah oui, debout piétiner. Ouais. D'accord. Parce que pour faire un rideau, bon, j'ai une table de coupe qui fait 2,50 m sur 1,50 m. Et quand vous avez un grand rideau, eh bien, je ne fais que tourner autour de ma table.
Oui.
Donc, ça, je ne vais pas dire que ça fait des kilomètres, mais ça fait quelque part.
Aussi, effectivement, voilà. Au bout de la semaine. Vous m'avez montré votre atelier tout à l'heure, là, quand je suis arrivé, qui présente la particularité d'être dans sous-sol.
Voilà.
Ou même dans, on peut même dire une cave. Hein, puisque c'est,
on
c'est
peut dire cave, oui.
Une cave. Et donc, voilà, c'est là-dedans que vous opérez.
Oui. En fait, mon atelier, en tout, fait 23 mètres carrés.
Oui. Et c'est suffisant pour manipuler les grandes longueurs que vous avez à manipuler.
Ah oui, j'irais, pour moi toute seule, oui, on ne pourrait pas y travailler à deux.
Ouais.
En tout cas, le magasin, il est bien pour une personne, mais pas à deux. À deux, on se gênerait.
C'est ce que si on vous souhaite. Alors, on va vous souhaiter d'avoir un atelier plus grand avec un garnisseur, de manière à faire à la fois les sièges et les tentures et les rideaux. Et... En attendant, je vous remercie beaucoup de votre accueil et beaucoup de tout ce que vous nous avez apporté sur votre beau métier.
Merci, au revoir.
De grâce, monsieur le promoteur. De grâce, réservez cette grâce. De grâce. De grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.